Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Salut à tous, bienvenue pour cette preview draft consacrée à chaque franchise NFL, un jour pour une équipe en particulier. Aujourd'hui, honneur aux Baltimore Ravens, partie pour une reconstruction défensive ou pas. On attendra en tout cas de savoir un petit peu comment ça va se passer dans une intersaison qui est pour le moins cruciale, hein, du côté du Maryland. A priori, on prépare peut-être d'ores et déjà le nouveau contrat de Lamar Jackson. On aura sans doute l'occasion d'en parler en compagnie de mon acolyte Alexandre Locke. Salut Alex.
Salut Greg, bonjour à tous.
Et donc je le disais, ça fait longtemps dans mon esprit que les Ravens n'ont pas eu des besoins aussi prégnants lors de la draft. D'habitude, ça ressemblait quand même plus ou moins à des ajustements. Alors, faut pas oublier que l'année dernière, ils étaient assez actifs lors de la draft, justement pour blinder en termes de jeunesse et d'aptitude à prendre la suite des vétérans actuels. Donc, il y a quand même éventuellement des seconds couteaux qui pourraient être développés vraiment efficacement en 2021. Mais c'est vrai qu'il y a des postes encore à l'heure actuelle qui sont pas partis pour nous rassurer à 100%. Et on va l'aborder tout de suite. On n'était pas forcément en désaccord, hein, sur les postes prioritaires. Il y a trois postes qui semblent se dégager. Tu vas nous les développer un petit peu. En attaque, il y avait le poste de receveur et de lineman intérieur. En défense, surtout, il y a un départ de Matt Judon qui fait pas mal de mal.
C'est ça, Matt Judon qui est parti. Ça fait quand même. Il y a Pernell McPhee aussi, si je m'abuse, qui est.
Alors, il l'a re-signé, mais il n'est pas tout jeune.
Ok, ça, tu vois, j'avais manqué l'information.
Je vais revenir.
Parce que je ne l'ai pas vu, moi, sur l'alignement, mais bon, après, c'est possible. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est le départ de Judon, c'est vraiment un handicap pour les Ravens. Je pense que ça va être un poste à surveiller très près au premier tour. Alors, ils avaient drafté Ferguson il y a un an ou deux, relativement haut. Il va falloir quand même qu'ils prennent un peu son envol et qu'ils confirment. Mais honnêtement, au premier tour, je serais vraiment pas surpris. Il devrait y avoir du choix dans au niveau de leur sélection. Ils devraient avoir du choix. Peut-être même qu'ils auront de bonnes surprises avec peut-être des pass rushers qui vont descendre un peu à cause de quelques incertitudes à leur sujet. Donc, ça, c'est quand même l'option, je pense, numéro un, mais à pas sous-estimer la possibilité d'un receveur. On sait que le jeu de passe de Baltimore, c'est quand même le plus mauvais de la ligue. Il faut pas l'oublier. Le moins productif. Je rentrerai pas dans le débat de savoir pourquoi, mais ça manque peut-être un petit peu de cible. Marquise Brown est un petit peu seul. Il y a Boykin qui est pas mal, mais c'est pas un receveur numéro un.
Il y a Duvernay, dont on avait vu quelques bons moments l'année passée, mais ça demande d'être confirmé. Ouais.
Voilà, mais après, comme Brown, ça reste des profils peut-être plus rapides, plus petits. Ils ont peut-être besoin d'un receveur de possession un peu plus grand qui peut être capable de bouger les chaînes et d'être une solution, j'allais dire, un peu de repli pour Lamar Jackson et l'aider à progresser dans son jeu de passe. Donc, il y a cette option-là. Il faut voir. Quoi qu'il en soit, je pense que ça va être... Peu importe l'ordre, moi je pense que ça sera Edge, et toi aussi d'ailleurs, je pense Edge receveur. Ça pourra être l'inverse, ça pourrait être receveur d'abord et Edge ensuite, mais ça va, c'est les axes majeurs de renfort de Baltimore.
Ouais, non, très clairement, on a été assez d'accord là-dessus. Alors, on échangera également. On avait parlé du backfield défensif aussi. Ouais. Et là, je sais qu'il y a des points un peu discordants. Si on se lance dès à présent sur les joueurs qui fitteraient le mieux, alors tu le disais, il y a possiblement des bonnes affaires à faire, hein, sur le poste de pass rush à la fin du premier tour. On l'avait notamment dit avec les Bills il y a quelques jours. Un profil à la Jalen Phillips, par exemple, ça, ce serait pas incohérent du côté de Baltimore. Donc je confirme, hein, Pernell McPhee a bien signé, ainsi que Tyus Bowser. A priori, ce seraient les deux principaux, ouais. À venir pour la saison, hein. Tyus Bowser qui était également assez prometteur en 2020, ouais. Donc mais ce serait pas forcément une mauvaise chose de mettre quelqu'un avec lui. Donc je parlais de Jalen Phillips. Je sais que moi je partais plus sur Gregory Rousseau et toi sur Joseph Osai. C'est juste une question de perspective et de savoir qui sera là à la 27e position si Baltimore reste là.
C'est ça. Alors, clairement, si Rousseau descend, je pense qu'il n'y a pas vraiment de réflexion à avoir. C'est un joueur que j'aime beaucoup. Je pense que même s'il n'a qu'une vraie saison de production, c'est un bon joueur avec les dimensions idéales, avec vraiment une capacité athlétique, vraiment faite pour le poste et pour le plus haut niveau. Mais je n'arrive pas à croire qu'il pourrait descendre jusqu'en 27. Alors, je leur souhaite, il n'y a pas de souci là-dessus, mais je ne suis vraiment pas sûr. Il y a quand même pas mal d'équipes qui vont vouloir se renforcer sur le poste. Après, Osai, c'est un joueur qui fit parfaitement dans leur schéma, sur leur 34, qui à mon avis devrait beaucoup plaire à Harbaugh. Donc c'est vraiment, comme tu dis, c'est une question d'opportunité. Je pense que c'est plus dans cette optique-là. Après, est-ce qu'ils bougeront? Je sais pas, je pense pas.
Bah, moi, c'est un peu ça. Alors, si tu veux, moi, j'étais plus parti sur Rousseau parce que, comme tu le dis, je pense que le plafond paraît plus élevé qu'Osai, paradoxalement. C'est pas très dur. En tout cas, comme tu dis, on a vu qu'un an vraiment à plein régime pour Rousseau. Après, je vois plus Rousseau comme un pass rusher occasionnel parce qu'il arrive à faire pas mal de choses, mais je le vois moins varié dans son utilisation que Joseph Osai. Et pour remplacer un Matt Judon qui était capable de faire beaucoup de choses, c'est sûr que je te rejoins sur le fait que Joseph Osai, ça peut être un profil qui peut vraiment plaire à Baltimore parce que justement, il n'y a pas ce côté entre guillemets unidimensionnel où le seul rôle du edge rusher, ça va être principalement d'aller chasser le quarterback.
Ouais, c'est un joueur qui en plus est très intelligent. Donc c'est dans la philosophie de la franchise du Maryland, je pense que c'est quelque chose qui matche bien, clairement.
Alors, on était parti également sur un receveur aux trois premiers tours. Tu partais sur un receveur dès le deuxième tour. Nico Collins, en l'occurrence, receveur de Michigan, profil dont on parle peu, mais c'est quand même un profil assez intéressant, un petit peu sur le modèle. Je prends l'exemple bête d'un autre ancien de Michigan, mais Donovan Peoples-Jones, c'est-à-dire le côté athlétique, mais également très grand pour pouvoir justement être injouable en un contre un.
Voilà, bah en fait, ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure. Je pense que vraiment, ils ont besoin d'une cible, d'une grande cible, de grande taille. C'est ce qui manque aux Ravens. Et Collins, il fait 6'4", ça doit faire 1m92, 93, comme ça doit être à peu près effectivement comme Peoples Jones, qui est maintenant aux Browns, son ancien collègue à Michigan. Pour moi, c'est un joueur dont tu as besoin, Jackson. Alors, comme on l'a dit, ça peut être au premier tour peut-être, mais en fin de second tour, Collins, ancienne recrue Créate Étoile, il a été plutôt intéressant malgré les soucis de quarterback à Michigan. Il a été plutôt, enfin moi j'ai bien aimé. Je pense que c'est un joueur qui doit pouvoir leur apporter tout de suite.
Oui, non, je te rejoins. Alors moi, c'est vrai que j'étais parti plus sur un receveur au troisième tour, en l'occurrence j'avais choisi un profil plutôt slot, hein, en l'occurrence Dwayne Eskridge. Ouais. Maintenant, si on reste sur ta logique, alors, j'avoue que Nico Collins fin deuxième tour, si on prend cette hypothèse là encore une fois, ça interdit pas aux Ravens de descendre éventuellement. Moi, je sais pas si je verrais Nico Collins aussi haut, mais que ce soit au deuxième ou au troisième, si on reste sur le même style de profil, Sage Surratt, ça peut être un profil intéressant pour les Ravens aussi, hein, en termes de joueur assez grand, capable d'être menaçant dans le jeu profond.
Ouais, Surratt, effectivement, fin de troisième tour, c'est pareil. C'est un joueur qui, je pense, en talent pur, vaut mieux que ça. Mmh. Mais ça peut être une alternative intéressante. Sincèrement, les Ravens, je trouve, ils draftent toujours de manière très intelligente et c'est toujours inattendu. Donc, c'est difficile d'arriver à lire ce qu'ils vont faire. Mais effectivement, bon, Collins, fin de deuxième tour, tu as raison, peut-être que c'est, c'est un poil haut. Après, bon, encore une fois, ça dépend des boards.
Oui, c'est ça reste un profil atypique dans cette classe où on arrive à mettre beaucoup de joueurs dans des cases. Là, en l'occurrence, c'est vraiment quelque chose de très particulier.
Mais du talent au poste de receveur, l'avantage pour les équipes en manque de receveurs, c'est qu'il y a du talent partout, de toutes les tailles, de toutes les conditions physiques, j'allais dire, et pour faire tout type de receveur. Donc, ils trouveront leur bonheur, il n'y a pas de souci. Mais vraiment,
ils avaient bien pris se faire de ma part 3 receveurs lors de la dernière draft. Hein, donc, là, encore une fois, s'ils veulent blinder de nouveau pour être sûr d'avoir le maximum de chances de trouver vraiment le pendant de Marquise Brown, ils vont pas se gêner.
C'est bon. En fait, c'est bon. C'est, Collins dans les, j'allais dire les top receveurs de la QV, c'est le plus grand. Donc allons jusqu'au bout de la logique et prenons le plus grand.
On est d'accord. Alors du coup, notre point de désaccord qui concernait le backfield défensif. Alors sur notre top 3, j'étais parti sur un corner. J'avais plutôt identifié Tyson Campbell, sachant qu'il y a des joueurs importants qui seront agents libres sur la position l'année prochaine, notamment Marcus Peters. Toi, tu étais plutôt parti sur un safety, en l'occurrence Paris Ford, hein, qui est donc parti plutôt pour être un strong. Qu'est-ce qui t'incite à aller plutôt vers l'intérieur plutôt que sur l'extérieur de secondary?
Écoute, c'est pas... Encore une fois, bon, on en a un peu plaisanté, mais il n'y a pas... Les deux safety pour moi sont à peu près équivalents, mais il y a quand même une marge de progression à trouver. C'est pas le meilleur binôme de la ligue, loin de là, même s'ils sont pas déshonorants. Et moi j'ai une préférence pour Elliott, donc c'est vrai que je pars plutôt sur un strong. Maintenant, je pense que de toute façon un deuxième strong dans leur défense, ça pourrait pas leur faire de mal non plus. Voilà, Paris Ford, c'est un super cogneur. Je pense que c'est un joueur qui, là aussi, pourrait facilement s'intégrer dans les schémas de Harbo et qui serait plutôt bien utilisé. Et le potentiel est vraiment là pour développer.
Alors, c'est encore une fois, c'est pas impossible. Hein. On en avait parlé, Paris Ford, c'est un profil peut-être un peu... je sais pas si caricatural c'est le bon terme, mais ouais, ça reste assez limité dans son utilisation, mais je ne doute pas que les Ravens pourraient l'utiliser. Après, je pense que sur les strong safety draftés relativement haut, je pense qu'ils ont été vaccinés par Matty Lam il y a quelques années, mais ça s'entend parfaitement. Et ouais, moi je te dis, j'étais surtout parti sur une logique de remplacer les agents libres. Après, ça peut être Campbell comme ça peut être un autre, mais en tout cas, j'aimais beaucoup le côté profil et intimidant à la fois. On avait déjà parlé de son gabarit. Je crois que tu en avais parlé pour les Saints notamment, donc du côté des Ravens, ce ne sera pas complètement illogique non plus. Donc voilà, après, encore une fois, sur une position où de toute façon, il y a des besoins. J'avoue que j'aimais bien aussi les deux defensive backs de UCF. Tay Gowan, qui a un profil un peu hybride, oui, qui peut être plutôt corner, plutôt safety, plutôt free safety en l'occurrence. Donc s'il y a besoin d'être en concurrence avec Deshaun Elliott en fonction, ou s'il y a besoin de prendre la suite des cornerbacks derrière, ça peut être une bonne solution. Et puis Aaron Robinson également, que je trouve assez intense et qui dans la défense de Baltimore, je pense, ne ferait pas tâche, même s'il y a toujours cette zone d'ombre sur son aptitude à vraiment performer à plein régime sur l'extérieur. T'avais pas spécialement de bonnes pioches pour les Ravens?
Bah, écoute, en y réfléchissant, je me dis que peut-être renforcer les coureurs. Ingram a quitté le navire en fin de contrat, donc peut-être que Elijah Mitchell, qui a les dimensions similaires et qui, je trouve, a un profil qui complémentaire à Dobbins, ça me plairait assez en fin de draft, peut-être sixième tour. Je pense que faut peut-être regarder de ce côté-là, parce que on sait à quel point le jeu de course est important à Baltimore. Donc, voilà, Mitchell de Louisiana, intéressant.
Ouais, alors j'avoue, parce qu'on n'en a pas parlé du tout en l'occurrence, alors qu'on a ciblé comme un besoin prioritaire, je ne pense pas qu'ils attendront si longtemps, mais vu qu'ils ont considéré la position, la ligne offensive quand même, il y a peut-être un joueur qui sera à surveiller. S'il descend au quatrième tour, peut-être qu'un Walker Little peut faire l'affaire de Baltimore. C'est un peu...
Walker Little, c'est un bon joueur. Colosse au pied d'argile, un peu, malheureusement.
Voilà,
pour lui,
c'est un
super
peu,
joueur.
C'est ça. C'est un peu pour ça que, moi, dans mon board personnel, à l'heure où on se parle, il est encore au troisième tour. Mais c'est typiquement pareil, le genre de profil qui peut éventuellement chuter, sachant qu'il y a des profils, notamment depuis le Senior Bowl sur la O-line qui grimpe en flèche. Ils peuvent peut-être en être tributaires. Mais j'aime beaucoup Et j'aime beaucoup ce que peut apporter Walker Little, même si sur le papier il est un peu fragile. On met un peu ça de côté, mais alors on enregistre cette émission, Orlando Brand pour l'instant est toujours dans l'effectif, mais
il veut partir.
Voilà, il veut partir, donc il y a quand même besoin d'un tackle droit relativement rapidement. Et puis surtout, Walker Little, c'est un joueur qui reste performant dans n'importe quel domaine. Donc je pense que même si on lui demande d'être hyper efficace sur le jeu au sol, parce que c'est sans doute là que Lamar Jackson reste encore le plus à l'aise, je pense pas que c'est quelque chose qui va lui poser problème. On a vu qu'à Stanford, ça restait une attaque qui restait majoritairement axée sur du sol. Donc très franchement, Walker Little, ça peut vraiment être un bon compromis. Voilà, si on part d'une bonne pioche au quatrième tour, par exemple, ou un peu plus bas, hein, mais là, franchement, ce serait un peu plus farfelu, je pense.
Ouais.
Je doute qu'il y ait une équipe qui le laisse passer aussi loin. Mais voilà, c'était mon éventuelle bonne pioche. Après, oui, on peut rajouter un running back, mais bon, je pense qu'il faut considérer d'autres besoins pour Baltimore. Après, on parle d'une bonne pioche, hein, donc ça permet éventuellement de renouveler l'effectif.
Au quatrième tour, c'est sûr que c'est, comme tu le dis, c'est vrai que j'avais omis l'affaire Brown, si on peut l'appeler ça comme ça, qui veut absolument jouer à gauche, donc lui trouver un remplaçant. Ouais, clairement, c'est un Little au quatrième tour, c'est à se frotter les mains.
Très clairement. Voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas sur les Baltimore Ravens. On se retrouve demain pour rester dans la AFC Nord et aborder notamment les Cleveland Browns. D'ici là, n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires sur les choix qui vous paraissent importants pour les Ravens. Et on vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve très bientôt. À plus. Ciao.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author Elizabeth Gilbert about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.